Fabienne Lemoelle.
Et donc un nouveau record hier de cas de Covid, 13 125 en 24 heures en France. L'OMS qui lance l'alerte cette semaine aussi en Europe en parlant de niveau alarmant de transmission. Bonjour Dominique Costaiola.
Bonjour.
Épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, merci infiniment d'être avec nous en studio ce midi sur Europe 1. Vous étiez d'ailleurs au Sénat cette semaine devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de cette crise sanitaire. Elle en est où cette crise sanitaire? Est-ce que ça y est, la deuxième vague approche?
Alors, je suis pas sûre qu'on puisse parler de deuxième vague ou que ça a un sens, parce que si on le définit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une circulation importante du virus. Néanmoins, pour l'instant, elle ne se compare pas à ce que l'on a eu en mars, parce qu'en mars, compte tenu du fait qu'on faisait peu de tests, le nombre de cas qu'on avait était peut-être 3% de l'ensemble des tests, alors que maintenant, c'est probablement aux alentours de 30%. Donc, il y a un facteur 10. On est plutôt encore dans ce qu'on n'a pas regardé parce qu'on n'avait pas les moyens en place, qui est comment l'épidémie a évolué en janvier-février. Et puis d'un seul coup, elle nous a explosé à la figure en mars.
Pour autant, le virus, vous le dites, circule plus vite. C'est pas uniquement parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas.
Non, parce qu'en fait, quand on regarde le nombre de personnes trouvées positives par rapport au nombre de personnes testées, on voit qu'on est passé de 1% en juillet, à maintenant 5,4% sur l'ensemble du territoire, mais en sachant qu'il y a un certain nombre de départements où ça dépasse 8%. Juste pour donner une idée, en Allemagne, au pic de l'épidémie, dans un pays qui testait beaucoup dès cette période, ils ont eu au maximum 10% de positivité. Donc, vous voyez, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on prenne les mesures qui nous permettent d'en rester là et de ne pas aggraver la situation.
Alors justement, Dominique Costaiola, c'est quoi ces mesures? Je le disais dans le journal, les préfets serrent la vis, plus question de se rassembler à plus de 10 personnes, par exemple à Nice, on attend des mesures pour Lyon. Semaine après semaine, on parle des gestes barrières, c'est quoi la bonne parade?
Il y a deux aspects. Il y a le côté comment on fait pour diminuer le taux de reproduction du virus, dont tout le monde a entendu parler maintenant, le fameux R. Les gestes barrières, ça contribue, parce qu'évidemment, si on garde la distance, si on se lave les mains régulièrement, que ce soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique, et si on porte le masque en toutes circonstances à l'intérieur, eh bien, on va diminuer cette probabilité. L'autre façon de faire, c'est aussi de diminuer ses contacts. Si on a moins de contacts, on a moins de chances de le transmettre. Et bien sûr, un autre pilier pour diminuer la transmission, c'est dépister, tracer, isoler.
Mais sauf que là, on a bien vu qu'il y avait un petit problème. Alors, il y a les tests salivaires. Le feu vert a été donné hier par la Haute Autorité de Santé. Est-ce que ça va faciliter les choses?
Donc, dépister à l'heure actuelle, c'est effectivement le maillon faible en France. Mais il y a d'autres pays qui ont aussi ces difficultés. En Belgique, au Royaume-Uni, on a aussi ce type de difficultés avec des délais qui s'allongent. Ce qui ne va pas, c'est le délai avec lequel on peut obtenir un test et le délai avec lequel on a le résultat, en particulier quand on est dans les populations qui ont été priorisées, donc notamment les gens qui ont des symptômes. Alors le test salivaire, en fait, ce qui change, c'est uniquement le prélèvement. Au lieu de faire un prélèvement nasal assez désagréable, le prélèvement salivaire est plus simple. Mais derrière, la technique pour rechercher le virus est exactement la même. Donc en termes de délai, etc.,
ça peut être aussi
ça ne va pas changer. Simplement, on imagine quand même que c'est plus facile d'organiser les prélèvements, et notamment, par exemple, quand on va faire les barnums, dans la mesure où ce sera des choses qui vont être restreintes aux gens qu'on a priorisés, et notamment aux gens qui sont symptomatiques, ça permettra d'aller quand même plus vite dans le prélèvement.
Donc, mais j'en reviens, Dominique Costaiola, à ce que vous nous disiez par rapport à ces gestes barrières. Je recevais la semaine dernière le professeur Berche, qui a ce même micro, nous disait, il faut porter le masque, il faut se laver les mains. C'est dans les lieux privés aussi, c'est-à-dire dans nos familles, on est tous responsabilisés par rapport à ça. Comment on fait rentrer ça dans la tête des gens?
Je crois qu'il faut réussir à faire comprendre qu'effectivement, ce sont des mesures efficaces. Si on revient sur les masques, c'est sûr que la communication sur l'ensemble de la crise n'a pas permis aux gens de comprendre pourquoi c'était efficace, puisqu'on a dit pendant toute une période que ça ne l'était pas. En fait, il faut bien voir qu'on se basait sur des données qui concernaient la grippe. Or, la grippe, on n'est pas longtemps infectieux avant d'avoir des symptômes. C'est assez différent de ce virus-là, c'est ça qui fait de la différence. Quand on regarde les études que l'on a maintenant et qui concernent les coronavirus, que ce soit celui qui a causé le SARS, celui du MERS et le coronavirus actuel, on voit que c'est une mesure efficace. Pourquoi? Parce que comme on peut transmettre en n'ayant aucun symptôme avant d'en avoir, ou si on va rester de toute façon asymptomatique tout du long, eh bien, on prévient la transmission par le masque. Et donc, on n'a pas ça quand on fait la grippe. Et c'est ça aussi qui explique l'évolution. Et un autre point, c'est que très souvent, beaucoup de médecins, si quelque chose n'est pas efficace à 100%, ils considèrent que ça ne marche pas. Mais déjà, si c'est efficace à 80%, ça réduit le risque, vous voyez. Donc, si on est dans une politique de réduction des risques, une chose qu'on a bien appris dans l'infection à VIH sur laquelle je travaille, on voit que c'est absolument contributif. Donc, il faut absolument être convaincu que c'est quelque chose qui va contribuer à ce qu'on n'aille pas dans une situation plus compliquée que celle qu'on connaît à l'heure actuelle.
Et ce qui est peut-être important de dire pour terminer, Dominique Staiola, c'est aussi qu'il y a un effet, si ce n'est retard, c'est que si on fait des efforts aujourd'hui, on ne le verra peut-être pas demain, et c'est pour ça qu'il faut être endurant.
Oui, oui bien sûr, parce qu'en fait, les cas qu'on diagnostique à l'heure actuelle, c'est des gens qui se sont contaminés il y a 7 à 10 jours. Donc, de la même façon, quand on prend une nouvelle mesure, il faut attendre au minimum ce délai, à partir du moment où on la met en place, pas où on la décide, mais où elle est vraiment effective sur le terrain, il faut attendre ce délai-là pour en mesurer un effet éventuel. Donc ça, c'est très compliqué, mais c'est tout le temps le cas dans les crises. Quand on a connu la crise de la vache folle, les dernières mesures qui avaient été prises, on a vu a posteriori, quand on a eu les données, qu'il y avait déjà plus de transmission aux animaux, et donc on avait bien réduit le risque aussi aux humains. Mais on continuait à prendre des mesures parce qu'on continuait à avoir des cas, parce qu'il y avait un long délai pour observer l'effet des mesures.
Et vous nous dites qu'il a encore temps d'agir aujourd'hui.
Oui, mon espoir, c'est qu'on reste dans une situation comme celle qu'on a à l'heure actuelle. Elle est tendue, mais elle n'est pas dramatique. Et le mieux qui puisse nous arriver, c'est de ne pas aller plus loin, de ne pas aggraver la situation. Mais pour ça, il est vraiment temps que tout